Bonjour à tous. Je vais tout d'abord me présenter. Je suis Julie, je suis pigiste au journal Marie-Claire. Voilà, donc c'est pour ça que je suis là, pour interviewer Monsieur Kaufmann. Donc on est ici pour parler du dernier livre de Monsieur Kaufmann, Le sac Un petit monde d'amour. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais brièvement vous présenter Monsieur Kaufmann. Vous êtes donc sociologue français spécialiste de la vie quotidienne. Vous êtes directeur de recherche au CNRS à la Sorbonne. Vous êtes également membre du CERLIS, Centre de recherche sur les liens sociaux. Et nous avons tous les mois le plaisir de vous lire dans Psychologie Magazine. Vous êtes considéré comme un pionnier de la microsociologie. Vous vous attachez dans vos recherches aux détails minuscules du quotidien et vous dévoilez les mécanismes qui sous-tendent nos conduites. Vous avez fondé votre propre méthode de travail et élaboré des outils originaux. L'identité, l'individu, le couple, la socialisation et la subjectivité sont vos thèmes de recherche privilégiés. Vos sujets d'enquête pointent parfois sur des faits minuscules et provoquent un effet de surprise, empreint d'humour qui d'ailleurs marque votre style. Alors, qu'est-ce que vous avez abordé comme thème ? On a vu l'analyse du couple par son linge dans la trame conjugale, la sociologie des seins nus sur les plages dans Corps de femme, regard d'homme, la logique de l'action ménagère dans Le cœur à l'ouvrage, le développement de la vie en solo dans La femme seule et Le prince charmant, l'importance des premiers instants de la vie à deux dans Premier matin, la portée culturelle de la cuisine et des repas dans Casserole, amour et crise, les petites guerres du couple dans Agacement. Et vous venez aujourd'hui nous présenter donc votre livre, Le sac, un petit monde d'amour. Le sac est présenté comme le partenaire fidèle des femmes qui rassemble à la fois le futile et l'essentiel. Je suis sûre que si chacune d'entre nous met la main dedans, la main dans son sac, en fermant les yeux, on va voir apparaître soit un portable, un morceau de papier, un stylo, un mouchoir, une liste de courses, enfin un tas d'objets différents à la fois utiles et chargés d'émotions, se sont tous les jours donné rendez-vous dans votre sac. Ce livre montre que le sac à main est loin d'être un objet ordinaire. Il peut facilement raconter la vie d'une personne avec beaucoup d'émotions et de sentiments et énormément de souvenirs. Et le sac est donc un monde mystérieux que vous allez aujourd'hui nous dévoiler. Alors, ma toute première question, moi, dans l'introduction, vous dites plusieurs fois « j'ai failli abandonner ». Pourquoi ?
Oui, parce que la question toujours, c'est de l'intérêt. Faire un livre, c'est facile. Mais faire un livre qui intéresse, c'est autre chose. Hein. Souvent, tous les métiers du livre, notamment les libraires, ici on a une superbe librairie, se plaignent un petit peu du fait que la librairie devienne un travail de manutention, quoi, et de gestion des flux des livres, hein, parce qu'il y a une surproduction qui est absolument considérable. Et parfois, les éditeurs qui voient leur marge, enfin c'est ce qu'ils disent, hein, je pense que c'est vrai un petit peu, leur marge un petit peu diminuée, ben, ils combattent ça en multipliant les titres. Quoi, hein, donc, effectivement, il y a beaucoup de livres. Et moi, j'essaie de ne pas faire un livre pour faire un livre. Donc je m'interroge, est-ce que c'est vraiment le bon sujet ? Surtout qu'il y a de la concurrence, hein, terrible. Alors surtout, ne me donnez pas d'idées de livres, et surtout de bonnes idées, parce que je suis déjà tellement malheureux de tous les livres que je ne ferai pas. Et c'est plus fort que moi, j'ai des idées, j'ai plus que des idées, je commence à travailler dessus, je fais mes petites fiches. Donc j'ai 30 projets de livres avec les dossiers, les fiches qui s'accumulent. Des livres qui ne seront pas faits, parce qu'en général, un livre, c'est 18 mois, quoi, en gros, un an et demi. Donc, ça ne sera pas possible. Donc, il y a une concurrence entre les livres. Donc, je veux choisir celui qui sera vraiment intéressant. Alors, pourquoi j'ai hésité un petit peu ? Alors, non pas parce que l'objet pourrait être dérisoire, parce que moi, j'aime bien, vous avez parlé des faits minuscules. Oui, j'aime bien partir du minuscule pour ne pas rester dans le minuscule, hein. J'ai un certain nombre de livres plus théoriques, hein, sur l'identité aujourd'hui, sur le basculement historique que nous sommes en train de vivre autour de l'individu sujet, etc., etc., et que j'ai alimenté à partir de ces enquêtes sur des sujets très très précis.
C'était votre méthode de travail.
Oui, c'est la méthode de, c'est ma méthode de travail. Hein, c'est fabriquer la théorie progressivement dans un aller-retour continu avec les faits très très concrets, extrêmement précis. Mais en même temps, les faits concrets, précis, ça permet d'écrire un certain nombre de livres avec une écriture un petit peu plus légère qui permette de toucher un public plus large. Et il y a une telle demande de savoir dans la société aujourd'hui que c'est une démarche, moi, qui m'attire beaucoup. Et notamment dans ce travail, depuis 30 ans, j'aime bien faire parler les objets. Les objets, dès qu'ils rentrent dans notre univers, dans notre monde personnel, ils ne sont plus des objets. L'objet, c'est quelque chose de froid, d'extérieur, d'objectif. Ils deviennent subjectifs, ils rentrent en nous. C'est comme si on avait deux corps. Le corps biologique, ça on connaît, la frontière et la peau. Et le corps anthropologique qui est beaucoup plus large, qui est à géométrie variable et qui intègre les enchaînements de gestes. On a comme ça toute une série d'enchaînements de gestes un petit peu automatiques qui intègrent des objets qui deviennent des repères. Le matin, je me lève, je ne vais pas me demander où est mon bol pour le petit déjeuner. Ça ne passe même pas par la conscience. Je tends le bras, je pense qu'il doit être là, dans le placard. S'il n'est pas là, alors là, mon cerveau va se mettre en route. Je vais me dire, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il n'est pas là ? Si je suspecte mon partenaire conjugal d'être à l'origine de cette chose-là, je vais m'agacer, je vais m'énerver, etc. Donc on peut suivre la piste de ces objets qui rentrent dans notre monde pour voir comment un individu fonctionne, comment une micro-société fonctionne, comme le couple ou la famille, et comment une société fonctionne. C'est la base de la culture. J'avais fait effectivement une enquête, vous l'avez mentionné, sur le linge, analyser le couple à partir du linge, et une autre enquête sur le ménage, le cœur à l'ouvrage. Chaque société, chaque culture a un système d'ordre, des principes un petit peu d'ordre et de propreté qui sont différents d'une culture à l'autre. C'est l'anthropologue anglaise Mary Douglas qui a très bien travaillé dessus. Elle montre très bien comment la saleté, ça n'existe pas du point de vue objectif. C'est une convention sociale. On a décidé que ceci était sale. On a décidé une place des choses et des substances. La terre en soi, c'est pas sale. Mais si elle est sur mes souliers, on a décidé que c'était sale. Mais dans d'autres cultures, c'est pas sale du tout. Hein ? Tout ça, c'est des conventions. Et par exemple, dans mon enquête sur... Je suis un petit peu hors sujet, mais je reviens très vite. Dans mon enquête sur le linge et sur le repassage, c'est extraordinaire. Dans mon enquête, j'ai enquêté auprès de 30 ménages. Regardez, remarquez que l'on désigne les familles par le mot « ménage ». Le même mot que faire le ménage. Et ce n'est pas par hasard. Parce que c'est la base des entités sociales. Parce que faire le ménage, c'est fabriquer la famille avec ses mains. Bien sûr, il faut d'autres choses, il faut des conversations, il faut des sentiments, mais c'est la base du système des objets qui va porter la famille. Eh bien, dans les 30 ménages que j'avais interrogés, le temps passé au repassage allait, par exemple, de 0 minute par semaine, rien du tout, à 7 heures. Eh bien, si vous êtes dans 0 minute ou dans 7 heures, vous n'êtes pas dans le même monde, dans le même univers. Et quand c'est le même temps qui était passé, ce n'est pas les mêmes choses qui étaient repassées. Pourquoi doit-on repasser les torchons ? Grande question dont l'arrière-plan philosophique est plus important qu'on ne le croit. Les torchons encore, c'est assez repassé. Parce qu'on me dit, oh, ça c'est facile, ça fait du bien. Mais les draps, par exemple, les draps, est-ce qu'on doit repasser les draps ? Hein, souvent, on ne sait pas trop. Et on n'a pas une réponse nette, donc on va les repasser à moitié. Ah, on les plie comme ça, puis un petit coup dessus pour la pile. Mais une pile, à quoi ça sert ? Vous voyez, on rentre dans cet univers tout bête des objets familiarisés, et on déconstruit tout ça. On voit comment c'est à la base de ce qui structure des entités sociales, une culture, etc. Alors du coup, le sac, j'arrive à votre question. Le sac, ben, c'était évident, parce que là, c'est en plus un objet qui n'est pas anodin, qui, très vite, on sent qu'il a envie de parler. Et dès que j'annonçais le thème de mon enquête, de mon livre, on me demandait, alors, sur quoi est votre enquête actuellement, votre prochain livre ? Alors des fois je dis, et puis on me répond, ah oui, oui, c'est très intéressant. Alors là, on a compris que ça n'intéresse personne, quoi. Et là, je disais, ben, c'est sur le sac à main. Oh là là là, on va falloir venir me voir, oh, je vais avoir des choses à vous raconter. Je dis, bon, d'accord, là c'est un sujet, un objet qui tout de suite a déjà envie de parler. Mais quand même, la question, ma petite hésitation, c'était, est-ce que quand même, il y a matière à un vrai livre, avec un vrai contenu. Sur le sac, au-delà de, on va trouver deux, trois petites bricoles dans le sac, ceci, cela, un petit livre d'amusement. J'avais un petit doute quand même. Donc, j'ai voulu tester, et j'ai notamment testé par une petite chronique. J'ai écrit des petites chroniques dans Psychologie Magazine, donc j'en ai fait une sur le sac, et puis qui se terminait par si vous avez envie de raconter un certain nombre de choses sur votre sac, écrivez-moi, voici mon adresse. Email. Et alors là, ça a été le flot.
75 témoignages.
Une petite centaine, et j'en ai retenu 75. Et j'ai dit arrêtez très vite. J'ai provoqué beaucoup de déceptions et de frustrations, parce qu'après l'enquête, il y a eu un premier témoignage, puis je posais mes questions, et puis ensuite on rentrait à deux à chaque fois dans un échange en creusant le sujet. Puis au bout d'un moment, j'avais trop de matière. Ce livre, je voulais faire un petit livre qu'on puisse glisser dans le sac. Et puis il commençait à prendre des dimensions absolument considérables. Donc j'ai dit bon, on arrête l'enquête. Mmh. Et là, on n'arrête pas. J'aurais encore plein de choses à dire. Et surtout, et là j'arrête parce que je suis trop bavard, surtout, ce que j'ai reçu dès le début, c'est exactement ce que j'attendais, plus que j'attendais. J'aurais pas osé rêver ça. C'est-à-dire, on me racontait la vie, sa vie, par le sac. C'était vraiment comme ça. Il y avait des tranches d'existence, des basculements dans la vie, où le sac était un repère, un témoin absolument important à toutes les étapes de la vie, depuis l'enfance, beaucoup de souvenirs d'enfance, les jeux de petite fille avec les sacs, les souvenirs de la maman, du sac de la maman, cette femme qui disait « quand j'ouvrais le sac, il sentait maman ». C'est extraordinaire, on voit l'image et tout ce que ça veut dire. Des choses beaucoup plus dramatiques, au décès de la mère. On change de position dans la génération, au décès de la mère, l'ouverture du sac après le décès, avec toute l'émotion et la compréhension du fait de comprendre à quel point il est au cœur de l'intimité, au cœur de l'identité, au cœur de la personne. Donc là, j'ai plus hésité, j'ai pas hésité longtemps, dès que j'ai eu ces premiers témoignages. Et puis en plus, ils étaient beaux, c'était bien écrit, ils étaient avec beaucoup d'émotions, de nostalgie, etc. Donc j'étais entraîné dans une logique d'écriture, parce que chaque livre, chaque enquête, il y a une ambiance qui définit un style de plume. Mon dernier livre, le livre d'avant, sur la drague sur Internet, c'était le contraire. C'était un milieu extrêmement dur, violent, avec un type d'écriture, avec plein d'anglicismes et tout ça. Donc moi, je me suis immergé dans cet univers. J'ai rédigé un petit peu de la même manière, mais je n'étais pas très à l'aise et pas très heureux. Là, c'était le bonheur absolu. Je suis rentré dans le sac.
Donc là, justement, vous parlez du sac en tant que petit territoire de l'intimité. Vous dites, je vous cite, « il y a toutes les émotions du monde dans un sac ». Il y a le témoignage d'ailleurs de Catherine Esman qui dit « Un coup d'œil à l'intérieur du sac d'une femme est un coup d'œil à l'intérieur de son âme ». J'ai trouvé ça magnifique. Et on voit aussi que l'homme comme l'enfant n'ose pas toucher le sac. À chaque fois, on apporte le sac de maman, comme ça, voilà. Est-ce qu'on peut dire que le sac revêt une dimension quasi mystique ?
Alors, mystique, c'est peut-être un petit peu fort. D'ailleurs, un certain nombre de femmes vont dire « Non, 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 alors là, le sac, mais rien à dire, rien à cacher, d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai que les essentiels dans mon sac. » Alors, les essentiels, alors souvent, il y a des catégories d'objets comme ça qui ont été définies. Alors, il y avait l'essentiel ou les essentiels, les choses techniques, froides, le téléphone, les clés, les papiers, l'argent, etc. En fait, on se rend compte que les soi-disant essentiels sont extraordinairement variables d'une femme à l'autre. Le maquillage, par exemple, parfois, c'est rudimentaire ou ça peut être une vraie valise. Le téléphone qui a l'air tout froid, mais il y a plein de choses dedans dans le téléphone. Il y a des photos, il y a un fond d'écran extrêmement révélateur. Le trousseau de clés, des fois il est petit, des fois il est énorme. Des fois il est énorme, mais il y a quand même un porte-clés. Est-ce qu'il y aurait besoin du porte-clés ? Et le porte-clés, il n'est pas si petit que ça. Des fois, il y a deux porte-clés, l'un attaché à l'autre, qui ont une fonction de gris-gris, de doudou, les deux, ou pas exactement ça. Mais dès qu'on rentre dans ces objets qui se définissent déjà, sans parler des autres, on parlera peut-être des autres. Comme essentiel, c'est un monde très, très déjà un petit peu complexe. Mais certaines femmes une minorité. Mais ils disent quand même, non, moi, j'ai rien de spécialement à cacher dans mon sac. Et d'ailleurs, mon mari peut très bien, pourrait très bien,
oui, parce que
regarder dedans ou mettre la... S'il le fait, ça va être un petit peu... Là, vous pouvez me l'ouvrir dans votre sac. Ben là, non, maintenant, parce qu'au fait, qu'est-ce que j'ai dans mon sac on en parlait un petit peu, justement, mais c'est vrai, il sert à énormément de choses, le sac. Incroyable. Il est multifonctionnel. Il y a notamment cette fonction, ce geste magnifique et magique du mettre dedans. Ça peut être un geste de bonheur. On voit quelque chose de magnifique esthétiquement, un caillou, un coquillage. On va perdre cette beauté. Non, on met dans le sac, on attend. Après, on verra ce qu'on en fait, on le rangera. Ou il peut s'installer dans le petit monde du sac et on ne va pas avoir le cœur de l'arracher. Et il peut rester comme ça pendant 10 ans, pendant 20 ans. Ça peut être des petits problèmes. Ça peut être une contravention. Est-ce que je la paye? Est-ce que j'essaie de ne pas la payer? Bon, allez hop, dans le sac! En attente. Ah, ça peut être même des fois, on n'a pas de poubelle à disposition, etc. Poubelle provisoire. Donc là, on ne sait plus exactement ce qu'on a. Donc on demande d'ouvrir le sac. Non. Et puis, il y a quand même, on a le sentiment, il n'y a pas forcément des grands secrets, des objets sulfureux, inavouables, etc. Mais il y a plein de petites choses, quand même. Plein. Il y a des témoins des failles. Par exemple, tous les médicaments que l'on a dans les sacs, médicaments contre le mal de crâne. Alors là, presque tous les sacs.
C'est l'objet que vous avez le plus.
Doliprane, ou d'autres marques, d'autres. Alors là, ça dit quand même quelque chose de la situation des femmes dans la société d'aujourd'hui. Donc ça, on n'a pas trop envie de montrer forcément. Et puis même, des fois, des secrets qu'on ignore. Cette femme qui me déclare, elle dit, bah, par exemple, dans mes petits papiers, parce que je ne sais pas si on aura le temps, il y a tout le chapitre petits papiers qu'on lit ou qu'on écrit. Dans ces petits papiers, il y a par exemple son remonte morale. Alors son remonte morale, elle a à peu près 40 ans, elle est une jeune maman, et elle a des petits moments où elle a un petit coup de fatigue, un petit coup de déprime, et là elle sort son remonte morale. Son remonte morale, c'est une lettre qui date du lycée. D'un soupirant, une déclaration d'amour. Un poème magnifique et romantique. Et elle lit, alors elle dit, c'est pas une trahison, ce type-là, je l'ai plus revu, il a disparu, etc. Mais quand même, est-ce que ça dit pas quelques petites choses sur sa situation actuelle? Elle a l'impression que c'est pas un secret. C'est quand même une petite chose. Donc il y a ce monde très personnel pour mille façons que certaines femmes ressentent bien. Et elles disent, pas touche à mon sac, de toute façon. Quelques autres le ressentent qu'à moitié, souvent des femmes qui ont un sac plus, comme elles le disent, réduit à l'essentiel, même si l'essentiel est complexe. Mais les enfants ou les hommes, eux, ils ressentent quand même que c'est un monde personnel. Ils ont, malgré tout, un certain respect. Ils ne sont pas parfaits vis-à-vis du sac tout le temps. On y reviendra peut-être, notamment sur leur aspect... ironique moqueur, oui. Par rapport à la femme qui a un sac où c'est toujours le bazar quand elle trouve pas ses clés ou son téléphone, etc. Alors que lui-même va donner ses clés ou son portefeuille quand le couple sort le soir, quoi. Hein, donc, mais au moins sur cet aspect-là, ils ont un certain respect. Ils sentent que c'est personnel, qu'ils ont pas trop le droit. Hein. Et effectivement, c'est tout à fait typique la femme qui dit ou même une collègue de bureau, parfois, qui dit « Oh ben tiens, tu pourrais me passer mon sac à main. » Ah, bon, pour elle, c'est technique, c'est juste le sac à main à prendre. Mais l'homme, il prend ça, c'est presque comme s'il touchait le corps, quoi. Et puis, il y a ce monde très privé, un petit peu mystérieux. Donc, effectivement, du bout des doigts, et puis souvent le bras un petit peu tendu, hein, il va amener l'objet comme cela, quoi.
Alors, j'ai vu, justement, on va arriver au... Le sac, c'est dans le chapitre « La femme porteuse », vous en parlez aussi, je crois. J'ai lu une citation de l'écrivain et journaliste Jean Co, qui a dit « Le sac à main des femmes est une véritable boîte à outils, comme en trimballe les pompiers, et toute la journée, dès qu'elles ont un moment, elles réparent. » Qu'en pensez-vous ?
Oui, elles réparent pour elles-mêmes, ou elles réparent pour les autres. Alors ça... Là, il faut rentrer dans les multiples catégories. Hein. Le sac, c'est un univers de contradictions permanente. Oui. Hein, il est travaillé de manière permanente par des contradictions extrêmement importantes. Et la réponse à ces contradictions est très différente d'une femme à l'autre. Donc il y a des catégories très nombreuses, très différentes, sur plein d'aspects. Sur l'aspect, on y reviendra par exemple tout à l'heure, sur l'aspect esthétique, choix esthétique. Oui. Il y a les femmes monosacs, toujours le même sac. Et puis les folles des sacs, les passionnées, les multipartenaires. Oui. On y reviendra. Il y a une question permanente, un questionnement sur l'allègement du sac. Parce que, femme porteuse, je vais essayer de m'expliquer là-dessus, il pèse sur l'épaule. Parfois, pour certaines femmes, ça peut être des sensations jusque de douleur au dos, etc. Donc il y a souvent la question, est-ce qu'il ne faudrait pas que j'allège, il faudrait alléger le sac. Mais au cas où, il y a un chapitre qui s'appelle « au cas où il m'arriverait ceci, telle situation se présenterait, tel scénario d'existence, est-ce que c'est pas utile que j'ai telle chose, tel objet ? Il peut pleuvoir, un petit parapluie, le soleil, les lunettes de soleil, le mal de crâne, le doliprane. » J'ai un stylo, mais au cas où il tombe en panne, il vaut mieux avoir un deuxième stylo. J'en ai trouvé jusqu'à 12, hein, des stylos. Il y a beaucoup d'objets comme ça, surnuméraires, hein, les bâtons de rouge à lèvres, les stylos, etc. Le au cas où est une manière de se réassurer, en même temps d'essayer d'envisager comment la journée va se construire, pour avoir les réponses adaptées à cette journée, avec des changes de vêtements, enfin, les objets, hein, ça peut devenir très, très nombreux, ou bien alors, on prend le risque d'être un peu plus aventureux. Donc c'est un choix de vie, un rapport à la vie, un choix philosophique, hein, d'une certaine manière, dans le type de sac, le choix d'objet que l'on va prendre.
Vous dites que le sac, ça représente notre identité. C'est aussi, je vous cite, un élément très révélateur des modalités développées pour construire son identité.
Oui. Alors, j'ai pas fini la question d'avant. J'avais oublié. C'était porteuse, quoi. Hein, donc, je vais revenir. Donc, il y a tous ces au cas où, et puis il y a les objets également qui peuvent servir, parce que vous aviez dit la femme qui répare, oui. Les objets qui peuvent servir aux autres aussi. Donc, j'en ai dit un petit mot rapidement. Des fois, il y a les objets du mari. Hein, et puis on revient à l'identité après. Les objets du mari qui se moquent parce qu'il y a du bazar dans le sac, et puis que la femme. Pourquoi la femme ne trouve pas ? Parce qu'il y a ce geste, notamment, c'est de mettre dedans. Si à chaque fois qu'on met dedans, il faut se dire tiens, ça, mais je le mets à tel endroit, je le range, on gâche le plaisir du geste. Donc c'est un petit peu balancé dedans, et après, il y a un petit peu de bazar. Et puis quand le couple sort le soir, le mari peut donner son portefeuille ou ses clés, ou parfois c'est la femme elle-même qui va lui prendre des mains parce qu'elle a peur qu'il les perde, et puis ça dérange. Puis le sac est là, donc c'est commode, c'est facile. Ah. Et puis il y a les affaires pour l'enfant. Dès que bébé arrive, dès que le ventre diminue après la grossesse, le sac grossit, hein, tout de suite. Alors, bien sûr, il y a d'autres sacs, des sacs accrochés à la poussette spéciale, mais dans le sac ordinaire, il va y avoir biberon, les couches, puis plus tard, les petits jouets, les médicaments, le carnet de santé. Selon ce qui est dans le sac, on voit quel âge a l'enfant. Alors là, c'est vraiment la femme porteuse, et ce qui est dans le sac traduit bien le rôle de la femme dans la société d'aujourd'hui. C'est-à-dire, on évolue très fort vers l'égalité entre hommes et femmes, ça progresse bien dans le monde du travail. Hein. Les femmes réussissent bien dans les études, en moyenne réussissent mieux que les hommes aujourd'hui dans le monde du travail, même s'il reste des inégalités de salaire, ça progresse quand même très très bien. Mais dans la famille, là, ça marche moins bien, hein. Ça évolue très très lentement, et le sac le révèle, témoigne de cela. C'est la femme qui a le poids de la famille sur les épaules, elle sur l'épaule et dans le sac. Et puis, il y a les objets qui peuvent servir encore plus largement à des personnes autour de soi. Là, c'est la femme qui répare, effectivement, c'est la femme qui dépanne. Alors là, c'est surtout des spécialistes, des femmes à gros sacs, hein, qui sont rentrées dans ce rôle de la personne qui sauve, qui aide, qui dépanne. Et comment refuser un tel rôle de la personne qui, dans l'imaginaire, pourrait dépanner pour tout? On va donc voir Martine ou Nicole. C'est sûr, elle a tout dans son sac. Elle va te sortir ça. Alors là, effectivement, j'ai trouvé les listes. C'est des listes à la Prévert, hein, assez impressionnantes. Hein, pompe à vélo, tire-bouchon. Alors, tire-bouchon d'une femme qui buvait pas de vin, quoi. Hein, mais un jour, elle, pour quelle raison elle avait ce tire-bouchon dans son sac et elle avait dépanné. Elle était celle qui avait le tire-bouchon et qui dépannait, etc. Donc, elle continue à trimballer le tire-bouchon. Puis des choses plus ordinaires. Les mouchoirs, par exemple. Les mouchoirs, c'est pour soi. Et donc, beaucoup de mouchoirs aussi. Hein. Et souvent, là aussi, des doublons. Hein. C'est-à-dire des doublons, on a un autre paquet, de peur que le premier, il n'y en ait plus dedans. Puis des fois, il y a le troisième paquet quand même. Mais effectivement, les mouchoirs peuvent servir au mari, par exemple, qui... Mais pourquoi les hommes n'ont pas de mouchoirs sur eux? Alors là, on pourrait essayer d'en débattre, parce qu'il y a des femmes qui ont essayé de faire ouvrir, il y a quelques hommes qui ont des sacs, ça se développe un peu.
Vous avez un chapitre, l'homme à sac.
Oui, alors on y reviendra peut-être, mais juste ce mot-là, quand elles ont essayé d'ouvrir le sac des hommes, bon, il y a eu beaucoup de stupeur et de surprise, mais notamment ce fait, pas de mouchoirs. Mais comment font les hommes sans mouchoirs? Mais alors peut-être qu'ils en ont moins besoin. Ça, j'ai pas toutes les réponses dans le livre. Faudrait continuer à creuser. Mais s'ils ont besoin d'un mouchoir, eh ben il y a leur femme ou la collègue de bureau qui est là. Donc là, c'est la femme qui répare. Alors. On attaque l'identité. Hein.
Alors non, attendez, ouais. Je vais vous poser autre chose puisqu'on parlait justement de la trajectoire biographique. Ouais. Moi, j'ai apporté 3 sacs. Je ne vais pas vous demander de les regarder, ne vous inquiétez pas.
Mais moi, je n'ai pas demandé aux femmes de vider leur sac. Elles m'ont raconté leur vie. Et depuis que le livre est sorti, on n'arrête plus de me faire... Alors, du coup, on croit que moi, j'ai été comme ça. J'ai eu cette violence de demander aux femmes de vider leur sac. Ah, donc, mais bon, je fais ça avec... C'est vous qui me le demandez.
Je ne vais pas vous demander ça. En fait, l'idée, c'était... Voilà, vous dites que le sac peut raconter une vie par ses variations, par sa grosseur, son aspect, ouais. J'ai envie de dire. Donc là, j'ai apporté 3 sacs. Et je voulais juste que vous puissiez nous dire quel type de femme prendrait quel type de sac. Alors, attendez, je vous les montre.
Oui, mais je vais dire dès le début que je vais vous décevoir, hein, quand même.
Regarde. Voilà. Un petit sac comme ça.
Voilà. J'étais pas prévenu. Hein. Là, il y a de l'animation. Il y a de l'animation. Alors... Une petite introduction quand même, parce que le sac, effectivement, est très lié à l'identité. Hein, c'est une petite fabrique de l'identité. Il dit énormément de choses de la personne. Mais en même temps, c'est très difficile de dire en 3 secondes, heureusement, hein, le lien, et surtout de l'extérieur, parce que c'est aussi le contenu, hein, c'est très très important, le contenu qui compte, parce que chaque objet, pourquoi il y a ce petit caillou dans le sac? On peut faire plein d'hypothèses, mais il faut retracer la vie du petit caillou, etc. Donc ça dit énormément de choses, mais c'est pas si simple que ça. Alors simplement, quelques mots comme ça. Ça, c'est pas un type de femme, quand même. Hein. Ça va être une pochette. Souvent, ça va être une pochette plus, par exemple, pour le soir, hein, pour sortir. C'est-à-dire que on va avoir le sac de la journée de l'ordinaire qui est le complice. Alors là, c'est comme une extension du corps. Et pour certaines femmes, même si à la limite, il est pas extra, on oublie un peu la question de silhouette et tout ça, il doit être commode. C'est le complice, l'accompagnateur. C'est la partie de soi qui soit moyen ou un petit peu plus gros. Alors là, pour certaines femmes, il y a plus le besoin du grand sac, du gros sac. Alors ça tombe bien parce qu'il y a un aspect un peu tendance, des cabas, etc. Donc des fois, on prend le prétexte de l'aspect tendance pour avoir le grand sac, mais en même temps, c'est bien quand même. Mais par contre, quand on commence avec le grand sac, il demande qu'à être rempli encore, quoi. Et on prend l'habitude du grand sac. Et alors là, petite notation. Normalement, dans l'histoire de vie, Il y a les jeux de petites filles avec des petits sacs, etc. Puis vient l'adolescence, on peut avoir un sac un petit peu petit, léger, petit sac à dos, mais en même temps, c'est commode parce qu'on peut mettre les cahiers de cours et tout, donc il ne faut pas qu'il soit si petit que ça, mais ça peut être un sac relativement léger, et par la suite, au contraire, il va se remplir, il va s'alourdir, notamment quand l'enfant arrive, où là, il grossit, etc. Après, il y a encore des questionnements, mais je ne voudrais pas faire toute la biographie. Or là, on voit aujourd'hui qu'avec la mode, des toutes jeunes filles commencent dès le début avec des sérieux cabas, quoi. Donc on se demande ce qui va passer quand elles vont être maman. Alors faudra une valise là, quoi. C'est tout à fait. Alors là, bon, on a l'intermédiaire. Discrètement avec une petite marque qui s'affiche, hein, quand même, quoi. Hein, ça, c'est. Alors, il est important. Alors, des fois, vous avez un dessin qui identifie. Hein, vous avez le Vuitton, on reconnaît au dessin. Ça peut être un faux, hein, mais on reconnaît quand même. Oui, alors, il y a des marques qui affichent leur sigle. Alors, ça, c'est extrêmement commode. Donc, là, on a une marque reconnue sans que ce soit. Il y a bien pire que ça. Hein. Je vois que les sacs, moi j'étais très surpris de découvrir que les sacs, ça peut monter à 30 000, 40 000 euros le sac. Hein. C'est, donc ouais. Là, ce n'est pas le cas, c'est un sac de marque simplement. Mais déjà, on affiche. Hein. On affiche. J'ai ça. Alors c'est très très commode. Parce que. Pourquoi souvent il y a un petit peu, c'est pas la seule raison qui explique la fascination pour les sacs, c'est tellement un monde composite, mais c'est tellement commode, parce qu'un sac à billes, on peut avoir le jean ordinaire, etc., on prend le sac, avec en plus une petite marque qui s'affiche, et ça y est, on est un peu habillé par le sac, et on se prend un petit bon point, parce qu'on est rentré dans la société des bons et des mauvais points. Ça, c'est assez terrible. Autrefois, si on remonte à la société traditionnelle, de toute façon, on était habillé, il y avait des costumes selon les professions, etc. Donc, on était habillé par un rôle. Hein, et puis, ça consistait à être à la hauteur des attentes. Aujourd'hui, on est de plus en plus dans une société de compétition systématisée et de jugement mutuel. Il y a toujours des hiérarchies qui nous notent. Mais de plus en plus, ce qui se développe, c'est la notation de chacun par chacun. Par exemple, j'avais fait une enquête, vous l'avez cité, sur les repas en famille. Un des thèmes fréquents de conversation, c'est de critiquer les amis et la famille. Ah, gentiment, hein, parce qu'on les aime bien, mais il faut voir leur manière d'élever les enfants ou de passer les vacances, c'est un petit peu n'importe quoi, quoi. Donc ça, c'est très utile comme conversation, parce que si eux font mal... c'est que nous, on fait bien, et c'est une façon de développer notre propre culture, nos manières de faire, et de s'unifier dans cette vision du monde, la manière de passer les vacances, d'élever les enfants, etc. Puis en même temps, au passage, on leur donne quelques petits mauvais points, parce qu'on construit l'estime de soi, aujourd'hui, de manière permanente, et il y a un déficit structurel de l'estime de soi dans la société, on construit cette estime de soi sous le regard des autres. Donc on a besoin du jugement positif des autres pour construire l'estime de soi. Le petit problème, c'est que dans cette rivalité systématique, la critique des personnes trop lointaines, ça ne donne pas trop de bons points. Par exemple, la vieille grand-tante, etc., si elle a un sac tout pourri, ça va pas donner de bons points de se moquer de son sac. Alors que si on fait crever de jalousie sa meilleure copine... parce qu'on a déniché un sac absolument incroyable, là, on se prend des bons points extraordinaires. Donc là, c'est une compétition qui est très dure, extrêmement complexe. On y reviendra peut-être parce qu'il y a des jeux sur les critères de jugement et de classement, mais au moins, on peut s'en sortir un petit peu. Ça peut être très commode avec simplement un petit sigle qu'on affiche.
D'ailleurs, ça va dans la tendance du heat bag. Le sac à louer.
Le sac à louer.
Le sac de luxe à
alors,
louer.
Le heat bag, j'en ai pas parlé dans mon
non,
livre.
Non, vous en avez parlé dans une de vos interviews.
J'en ai pas parlé parce que. Moi, ça devenait impossible. Plus j'avançais dans le livre, plus je m'arrachais les cheveux. Enfin, je m'arrachais pas les cheveux, j'en ai plus. Mais plus je vais pas arracher la moustache, je sais pas. Mais plus je me grattais la tête en me disant mais comment je vais faire ? Je voyais toutes les dimensions du sujet qui se développaient et mon envie de rester au volume du petit livre. J'aurais tellement, j'adore l'histoire, j'aurais tellement voulu creuser davantage l'histoire. Et je n'ai fait que quelques pages d'historique, parce que c'est une histoire passionnante. Hein. Les sacs, c'est très récent. C'est très, très, très récent. Hein. C'est notre société qui est devenue une société à sacs, quoi. L'économie, j'aurais pu faire un chapitre économie, hein, parce que la place du sac commence à être pas du tout négligeable. Puis j'avais plein de sujets comme ça. Alors, comme le heat bag, le petit problème, c'est que le heat bag, j'ai fait ma petite enquête, hein, sur ce fameux heat bag. Donc, faut avoir... Alors, on peut traduire en disant « le sac ». Donc là, pour le moment, ça va. Mais si on va plus loin, il y a des définitions complètement contradictoires de ce fameux heat bag. Pour certains, c'est tellement le sac qu'il passe les modes et les temps, quoi. C'est le sac un peu intemporel. Et pour d'autres, au contraire, c'est le sac du moment, donc qui est tendance. Donc c'est un petit peu le contraire. Donc j'ai préféré, comme le terme, il y a comme ça des termes qui apparaissent dans notre culture commune, et que tout le monde reprend sans qu'il soit bien défini. Et là, celui-là particulièrement, donc il aurait fallu que j'explique qu'il y avait deux définitions du heat bag, etc. J'ai dit, bon, allez hop, on laisse tomber, on n'en parle pas, je parle du sac. Voilà.
Donc, et dans votre livre, vous parlez souvent du coup de foudre, puisque certaines femmes cherchent le sac à main idéal comme elles cherchent l'homme idéal. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Oui, alors là, on rentre, c'était un point d'analyse important pour moi dans le livre, j'ai détaillé et opposé les deux vies du sac. Là, pour le moment, on a pas mal parlé de la première vie, c'est-à-dire l'extension de soi, toutes les petites manipulations, ce compagnon qui aide à vivre, qui aide à affronter, qui permet de se sentir sécurisé, protégé, armé face aux situations que l'on peut rencontrer dans la journée, et dont l'idéal est de se faire oublier, hein, comme ces objets ordinaires dont j'ai parlé au tout début. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Je suis très intéressé par le fonctionnement cognitif, pas du point de vue neuronal, mais du point de vue du fonctionnement cognitif. Et là, les objets qui rentrent dans notre monde familier, c'est parce qu'on ne les a plus dans la tête, dans le cerveau conscient. Ça passe, ils sont gérés par le non-conscient. Alors, ce n'est pas le non-conscient freudien, hein, c'est un non-conscient beaucoup plus ordinaire. C'est ce qu'une partie la plus intéressante des sciences cognitives appelle la mémoire implicite. Hein, chaque objet a un petit peu sa place. C'est pour ça qu'on est agacé par le tas de linge qui monte et qui n'est pas repassé, ou la poussière qui s'accumule, tout ça. C'est l'objet où le tube de dentifrice qui a été mal rebouché et qui est tout écrabouillé, etc., par le partenaire conjugal. Parce que c'est un objet qui n'est plus à sa place idéale, la place idéale qui est inscrite dans cette mémoire implicite. Et le sac, ce petit monde avec toutes ses émotions, ses sentiments, il est cette extension, la première vie du sac. Donc là, il n'est pas pensé, il n'est pas rêvé. Et ce qui le montre très bien, qu'on l'oublie, c'est que, par exemple, alors que l'idée de la perte ou du vol emplit les cauchemars, il y a un chapitre drame absolu, quoi. On a une peur folle de cette chose-là, alors qu'il y a cette peur, regardez dans les transports en commun, beaucoup de sacs, vous restez largement ouverts avec tout leur contenu qui s'offre à la vue du candidat voleur de passage. Ou autre exemple, le sac, on va le poser un petit peu n'importe où, dans les lieux publics, dans les toilettes, etc. On revient chez soi, on peut le poser sur la table de la cuisine, alors qu'en dessous, il y a un certain nombre de... C'est un lieu à microbes extrêmement important. Pourquoi ça? Parce que justement, on l'a oublié. Il est comme une extension de soi, il est une partie de soi. Mais je laisse maintenant tomber cette première vie dont on a parlé beaucoup, parce qu'il y a l'autre vie. Au contraire, quand il remplit les esprits, quand on a un regard sur le sac, notamment au niveau un regard très sentimental, au niveau des émotions que l'on va vivre. Et donc là, c'est le choix du nouveau sac qui va changer la vie, qui va nous changer. Alors là encore, des catégories de femmes un petit peu différentes. Il y a les femmes qui en changent peu, qui regardent un peu à la dépense et qui souvent vont chercher le remplaçant du compagnon, hein, qui commence un peu à fatiguer, donc elles vont chercher le remplaçant, mais c'est un petit peu le même sac, quoi, hein. Et puis, il y a celles qui sont les passionnées absolues, qui vivent des choses, hein, qui vivent des histoires, hein, et qui m'ont raconté leur récit de coup de foudre, coup de cœur, coup de foudre, avec les mots de l'amour humain, vraiment avec les mots de l'amour humain, de manière étonnante, à le premier regard. Ce que déclenche le premier... Alors, le sac, il ne regarde pas, hein, mais le premier regard du sac, d'un seul coup, l'explosion intérieure, moins fort que par rapport à un homme, quand même. Mais il y en a une qui dit, mais quand même, c'est mieux que les hommes. C'est mieux que les hommes parce qu'au moins, ils ne déçoivent pas, quoi, ensuite, quoi, le sac. Et en fait, ça, c'est un problème, le fait qu'ils ne déçoivent pas, quoi. Hein, parce qu'on a un coup de cœur... Alors, c'est comme toutes les passions, on oublie un peu la raison. Alors, certaines femmes essaient d'associer les deux, comme dans les affaires humaines, hein, d'ailleurs. Hein. Elles ont le coup de cœur, mais en même temps, elles réfléchissent en disant « Est-ce que ma vie va être bien avec cette personne ?» Avec ce sac-là, pardon. Est-ce qu'il est commode? Est-ce qu'il est pratique? Est-ce que je le sens bien à mon épaule? Parce que souvent, quand c'est épaule gauche, c'est pas épaule droite. Hein, donc, c'est la place dans le corps, quoi. Hein. Donc, c'est l'autre vie du sac. Est-ce qu'il va bien rentrer dans l'autre vie? Mais les autres, il y a les passionnés, les vrais, qui ont le coup de foudre, le coup de cœur, et qui ne se posent pas des questions. Alors, d'un seul coup, c'est comme à l'époque, sur une petite gamme, hein, quand même, il ne faut pas exagérer, mais du grand romantisme. On a oublié ce qu'était le grand romantisme à l'époque du romantisme allemand, etc. C'est un arrachement au monde ordinaire, sous la force de l'émotion et des sentiments, pour la construction d'un monde nouveau, d'une identité nouvelle. Et on va se regarder dans la glace, pour voir comment ils nous réinventent véritablement ce sac. Et puis, il y a le premier contact, les gestes, la caresse du cuir. Et cette femme qui disait, donc c'est mieux que les hommes parce qu'ils ne déçoivent pas. Un exemple de ça, souvent il y a le coup de cœur, il y a le coup de foudre, et on va avoir le coup de foudre, certaines femmes en sont des spécialistes, pour un sac qu'elles ne vont pas pouvoir porter par la suite. Parce qu'il ne correspond pas à l'aspect pratique, justement, à l'autre vie. Hein. C'est plus le même cerveau, c'est plus la même tête, c'est plus la même personne, hein, dans les deux vies du sac. Donc du coup, quand on craque comme ça, on peut partir, il faut ce sac-là. On se voit avec, dans cette nouvelle identité, il y a ce besoin de l'avoir, et il ne va pas pouvoir être utilisé. Donc là, normalement, on devrait le rejeter un petit peu et être déçu. Et l'homme, parfois, qui a un petit peu payé aussi à côté, fait la petite remarque, met ton sac, il y en a un certain nombre qui s'accumulent, qui ne sont pas trop, trop utilisés, ils sont encore neufs, c'est pour eux d'ailleurs les utiliser, ceux-là, mais c'est ça. Alors certains, effectivement, peuvent être entassés en étant peu utilisés, avec l'idée quand même, mais si un jour je vais bien l'utiliser quand même, mais en fait non, pas trop. Il est là, mais il n'est pas rejeté, effectivement, alors que les ex, les hommes, et à la crise après, on n'en parle plus. Hein. Mais là, le sac, il reste encore quelque chose. L'amour moins fort qu'au premier regard, etc. Mais encore, les amours anciennes s'accumulent d'une certaine manière, jusqu'à un certain point, parce que les sacs peuvent devenir envahissants. Donc il faut les écarter, et là c'est difficile, hein. Il faut les repousser par degrés, hein, dans les tiroirs, dans les placards, au grenier, etc. Mais sans trop les jeter, hein, quand même, on les garde un petit peu avec soi. Quoi.
Et ça, est-ce que vous pensez que c'est propre à notre société ou ça change selon les cultures? Alors, ce rapport...
Alors, c'est tout le monde du sac, hein. J'en ai dit un mot rapidement tout à l'heure, si on fait en deux mots très très rapidement l'historique... Si on remonte loin dans les anciennes sociétés, il n'y a pas de sac à main. Il y a des sacs, on ne sait pas trop si c'est des sacs à main, mais de toute façon, ils sont plus masculins que féminins parce que les hommes sont plus nomades que les femmes et ils vont de ville en ville, donc ils ont des besaces dans lesquelles il y a leur casse-croûte, quelques pièces de monnaie, des vêtements de rechange, des choses comme ça, des outils aussi. Donc, ce n'est pas vraiment des sacs à main. Le vrai sac à main apparaît comme féminin, comme un accessoire de mode à la Renaissance. Vraiment. C'est les aumônières, par exemple. C'est des tout petits sacs, plutôt en dentelle et en perles. Et oui, il y a presque rien dedans. Quoi, hein. Il y a un petit peu de poudre peut-être, un mouchoir parfumé, etc. Et pendant longtemps, ça va rester exceptionnel le sac, hein, dans les classes riches, hein, de toute façon, et l'occasion de cérémonies. Parce que par exemple, dans les sociétés rurales, dans les champs,
Les paysannes, qu'est-ce qu'elles auraient eu à faire avec un sac à main? Elles n'avaient pas de sac à main. Et même si on prend l'après-guerre, dans les années 50, bah c'est pareil dans la semaine, il n'y a pas de sac à main. Le sac à main, on le sort le dimanche pour la messe. Hein, en cuir glacé, rigide, là, il est un peu standard, là, le sac à main. Et dedans, il y a très peu de choses. Hein. Il y a le livre de messe, il y a peut-être un chapelet, il y a un mouchoir parfumé encore. Et c'est depuis un demi-siècle que l'on voit les sacs à main se généraliser, coller au corps des femmes. C'est très rare de voir une femme sans sac à main. Promenez-vous dans la ville et regardez. Et des sacs qui s'alourdissent de plus en plus. Nous avons besoin de plus en plus d'objets avec nous, autour de nous, parce qu'on n'accepte plus le risque, par exemple. Hein, là, il y a des grandes recherches là-dessus, hein, des grands chercheurs comme Ulrich Beck en Allemagne, par exemple, qui a écrit son livre sur la société du risque. On n'accepte plus le risque, donc on a besoin de se sentir protégé. Et puis, il y a des gestes d'hygiène. Quand j'ai fait le livre, c'était à la période de l'épidémie de grippe A. Donc, dans tous les sacs sont arrivés les petits flacons pour se désinfecter les mains. Et depuis que les télé et compagnie me font ouvrir les sacs des femmes sur les trottoirs, là, depuis 2 mois, donc je continue mon inspection et je vois que la grippe A disparu, presque, hein, elle a un peu explosé en vol, et les petits flacons sont restés dans les sacs. Dans beaucoup de sacs, il y a toujours le petit flacon. Donc on développe comme ça. Donc ça, c'est le sac, le premier monde du sac. Hein, sa nécessité se développe. Et quant au monde passion, à l'image de soi, lui aussi, hein, c'est la réponse à votre question, ça s'intensifie très fort, ça se développe. Regardez un magazine féminin, feuilletez-le, et regardez les espaces entre les articles, et, les articles mode et les publicités, et voyez tous les espaces occupés par le sac. Le luxe, par exemple, occupe une place importante dans l'économie aujourd'hui, dans le développement économique, notamment en France. Et le sac est très utilisé par les marques de luxe pour se mettre en avant, parfums et les sacs. Donc là, il y a une montée historique du sac sous toutes ses facettes, sous tous ses aspects, qui est très importante.
Est-ce que vous avez déjà eu des témoignages de femmes qui n'ont aucun intérêt pour le sac ou qui n'ont pas de sac ?
Oui, alors j'ai même un témoignage. J'ai souvent des demandes comme ça qui sont limite un petit peu... On s'adresse à moi comme un thérapeute potentiel, quoi. Donc là, tout de suite, j'arrête parce que je ne suis pas thérapeute. Mais là, ça n'a pas été jusque-là. Elle était très, très gentille. Mais c'était vraiment ça. Je n'ai pas de sac. J'arrive pas à en avoir un. Doit y avoir quelque chose dans mon enfance qui a cloché. Alors j'ai répondu très vite, non. On peut vivre sans sac. Pour certaines femmes, ça serait un bonheur d'arriver à se libérer du sac, il y a des fois ce rêve d'avoir les mains libres. Alors on peut les avoir avec un sac, hein. On peut avoir un sac qui a la forme sac à dos, quoi, hein. Par exemple. Mais vraiment les mains libres comme les hommes, hein, les mains dans les poches. Hein, comme un signe d'une égalité enfin complètement réalisée avec les hommes. Et certaines femmes arrivent à le réaliser. Alors, il y a des séquences comme ça. Il y a la séquence sans sac, une balade en campagne. On va essayer d'être sans sac ou en montagne, ou de mettre un peu dans le sac à dos, etc. Mais il y a quelques femmes. C'est quand même très rare. C'est plutôt à la jeunesse à ce moment-là, quoi, que ça se développe, qu'on peut le constater, quoi.
Vous avez un sac ?
Oui, alors moi j'ai absolument un sac, alors comme un certain nombre d'hommes, qui est un sac masqué. Donc il y a des hommes, des fois, c'est une espèce de vague sac à dos pendouillard là, sur une épaule, un peu informe, mais qui sert un peu de sac à main, ou la sacoche d'ordinateur. Moi, comme un certain nombre d'hommes, ça a l'apparence d'un cartable. Hein, mais en fait, j'ai tout dedans. J'ai même une petite trousse à couture. Depuis qu'il m'est arrivé un incident, je tiens à être prémuni, etc. Donc c'est exactement... Mais on est de plus en plus coincé coincés, hein, les hommes. Hein, c'est très dur aujourd'hui de ne pas avoir un sac. Et,
il n'y en a pas tant que ça, quand même, des hommes qui ont des sacs.
Alors, il y a ces sacs masqués, et puis il y a quand même une mode du sac, hein, qui se développe, hein, chez les jeunes.
Sac bandoulière.
Ouais, sac bandoulière, un petit peu, pochette un peu basse. Mais si on ouvre ces sacs des hommes, donc il y a des blocs de filles là, qui ont fait ça. Là, c'est quand même la surprise, parce que, alors qu'ils ont un sac, qu'ils pourraient mettre des choses dedans, mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? L'antivol pour le vélo, un magazine, un MP3, toc, terminé. Alors là, surprise, quoi. Même leur papier, par exemple, ils les gardent sur eux, ou le téléphone, parce qu'il y a l'utilisation des poches, hein, aussi, hein, chez les hommes.
Oui, mais est-ce que ça veut dire, justement, est-ce que... Enfin... En lisant ça, c'est vrai qu'on se demande, est-ce que les hommes sont moins sensibles parce qu'ils n'ont pas tous ces petits objets chargés d'émotions?
Mais, ils ont... Alors, par exemple, il y a des différences. Ils n'ont pas le besoin... Des fois, il y a... dans des sacs d'hommes, on voit... un ou deux petits flacons de crème, par exemple, hein, pour les visages, pour les mains. C'est relativement marginal et c'est très nouveau. Mais ils n'ont pas de trousse de maquillage, par exemple. Hein, pour certaines femmes, ça va être important. Il y a la petite trousse à pharmacie aussi. Il y a ce que certaines femmes ont appelé le nécessaire féminin. Donc là, je n'ai pas été trop creusé dans le nécessaire féminin. Mais là aussi, c'était quand même... Des fois, c'était très variable parce qu'on parlait d'une grosse trousse, hein, pour ce nécessaire féminin. Donc, mais il y a ces nécessités hygiéniques ou les pilules, etc. Et puis, il y a les autres catégories d'objets. Les objets au service de... Et puis, tous les « au cas où » qui peuvent servir, y compris pour les hommes ou dans une rencontre avec un homme. Il y a cette femme qui témoignait, qui disait « Moi, dans ma vie, il n'y a pas beaucoup de rencontres avec des hommes célibataires. Il y a peu d'hypothèses de rencontres, hélas. Mais au cas où, quand même... J'ai justement dans la petite trousse planquée dans le fond un préservatif. On ne sait jamais, parce que si ça devait arriver, les hommes très souvent un petit peu insouciants, ils risquent bien de ne pas avoir, quoi. Et puis il y a tous les objets dont, alors il y a les essentiels, les au cas où, les objets au service des autres et les objets, comment les appeler, personnels, qui ne servent à rien. Qui en apparence servent à rien. Alors ça, c'est le regard un petit peu extérieur masculin qui va dire à quoi ça sert. À quoi ça sert, par exemple, les petits cailloux, hein, parce que j'ai trouvé beaucoup de petits... C'est moi qui dis petits cailloux, hein, en fait. On me dit une petite pierre, un coquillage, un objet ramassé, des fois un objet étonnant. Cette femme qui, il y a 20 ans, va aux États-Unis, au Texas, et devant un motel... devant la porte du motel, trouve un bouchon de blanquette de Limoux. C'était il y a 20 ans. Je ne sais pas s'il existe toujours, la blanquette de Limoux, je ne sais pas. Si, ça existe toujours, ouais. Et elle ramasse ce bouchon de blanquette de Limoux, et depuis, c'est dans son sac. C'est comme un petit personnage, il fait partie du petit monde du sac. Et puis, il y a tout... alors, les petits cailloux, il y a des vrais gris-gris, hein, il y a des vrais doudous. Puis, il y a les porteurs d'émotions. Par exemple, on reçoit une carte postale, on en reçoit moins aujourd'hui, les cartes postales, donc on peut la laisser chez soi, mais on peut aussi l'embarquer dans le sac pour prolonger un peu l'émotion, la regarder de temps en temps à l'occasion. Les photos. Alors, aujourd'hui, vous allez me dire, mais il y a les photos électroniques sur le téléphone, par exemple. Alors, oui. Et les photos électroniques, mais il y a en plus les photos papier, hein, qui s'accumulent. Alors ça, c'est des porteurs d'affection, d'émotion. Donc les hommes, ils sont plus techniques, un petit peu fonctionnels, rationnels. Si ça sert, si j'ai besoin de l'antivol qui pèse un certain poids, une chaîne antivol par exemple, ça d'accord, je prends, mais bon... un caillou, des papiers, et tous les papiers, alors là, il n'y a pas les écritures chez les hommes comme il y a les écritures chez les femmes, toutes ces petites écritures
si on peut ouvrir un tout petit peu ce Allez-y. Chapitre, parce que c'est quand même très très important. Alors il y a beaucoup de papiers, il y a des lectures personnelles, des lectures que l'on aime, au cas où il y aurait un moment d'attente, un risque d'ennui, au moins avoir une bonne lecture. Et puis les petites écritures, alors souvent sur support papier, hein, il y a des écritures électroniques, mais en plus il y a des petits carnets, des papiers griffonnés, donc des écritures qui sont des fois de... comme un travail d'écriture, hein, des petits chefs-d'œuvre que l'on fait. On écrit pour soi, une phrase que l'on note, quelque chose que l'on observe, et puis des listes. Alors, les listes, c'est très important, extrêmement important. Umberto Eco a fait un livre là-dessus. C'est pas rien, les listes. Même une liste de courses, c'est une tentative de structuration de l'avenir. Choisir des aliments, c'est choisir des personnes. Un tel dans la famille, il aime ceci, l'autre aime autre chose. Donc ça va être un peu un choix relationnel, des choix culturels, des choix aussi par rapport à nos connaissances sur la santé. Donc composer le futur repas, il y a des éléments extrêmement importants. Donc faire une liste et réfléchir sur soi, sur l'avenir. Et puis il n'y a pas que des listes de courses. Il y a des listes aussi qui tentent de structurer l'avenir, des listes de résolutions, beaucoup de listes de résolutions. Je vais essayer ceci, cela, sur le mois qui vient, l'année qui vient, une réflexion sur soi. Donc c'est une manière de réfléchir sur soi, d'agir sur soi-même, de réformer son identité. C'est un travail que l'on effectue sur soi avec ces instruments, ces éléments qui sont dans le sac.
D'ailleurs, vous dites, le sac est le compagnon intime qui aide à penser à soi et à envisager l'avenir dans ce chapitre.
Oui, alors surtout, alors il y a beaucoup de passé. Il y a toute cette nostalgie, ces souvenirs, cette affection, les photos que l'on trimballe, les anciens écrits, etc., les petites pierres qui rappellent un souvenir, le bouchon de Blanquette de Limoux qui a 20 ans, etc.
C'est le temps qui passe.
Hein, c'est pour conserver ça. Et puis, il y a beaucoup d'avenir aussi, un travail sur l'avenir, notamment avec ces écrits qui aident à la réflexion sur soi et à la structuration de scripts d'avenir. Justement, j'ai fait un livre plus théorique sur l'identité et qui montre comment l'identité, il y a des conceptions différentes. Il y a certaines conceptions qui renvoient aux racines, comme si l'identité était donnée une fois pour toutes, et qui sont des conceptions absolument catastrophiques, qui peuvent nous emmener dans des conflits absolument majeurs. Et puis, il y a des conceptions beaucoup plus ouvertes, inscrites sur l'avenir, qui montrent comment on travaille sans cesse son avenir à partir de ce que l'on est, et notamment à partir de tentatives, de scripts, de scénarios qui peuvent changer l'avenir. Évidemment, il ne suffit pas de décider d'écrire un scénario pour que l'avenir soit changé. La réalité, souvent, est dure et résistante, mais c'est souvent à partir de là qu'on peut tenter de changer l'avenir.
Alors, les hommes, ils n'ont pas tout ça dans leur sac. Mais... est-ce que, justement, ce livre ne va pas ou a permis à des hommes de mieux comprendre la femme, leur femme ?
Alors, depuis que le livre est sorti, j'ai été interrogé par un certain nombre d'hommes chez les journalistes. Hein. Alors, pas dans les magazines féminins, parce qu'ils ne sont pas très nombreux dans les magazines féminins, mais sinon, en télé-radio, j'ai eu plus d'hommes que de femmes. Hein. Michel Field, Stéphane Bern, David Abiker, etc. Mais ce n'est pas le même type de question. C'était... Allez, racontez-nous, mais qu'est-ce que les femmes ont dans leur sac ? Alors, sortez-nous un objet là, qui va... alors, ils avaient envie que je parle de sextoy, de machin-chose. Alors, il y en a parfois, il y avait tout. Mais c'est pas ça, le secret des sacs. C'est beaucoup plus subtil que ça. C'est toute la suite des petits secrets. Non, je pense pas. J'espère simplement... qu'ils seront un petit peu moins moqueurs, hein, sur notamment le gros sac des femmes et du petit bazar qui est dedans, qu'ils seront un petit peu plus mauvaise conscience en se disant que parfois, ils participent en donnant leurs objets ou en ne participant moins, je dirais, aux objets, par exemple, de l'enfant. Par exemple, il y avait cette femme qui avait deux porte-monnaies dans son sac, le porte-monnaie personnel, et le porte-monnaie du ménage, quoi. Hein. Donc, c'est elle qui fait les courses pour le ménage. Donc, c'est elle qui a le porte-monnaie. C'est à la fois du poids, un poids, et un poids qui témoigne de la charge de travail domestique qui est de cette femme.
Est-ce que, justement, vous, après avoir écrit ce livre, votre regard sur les femmes et leur sac a-t-il changé? Est-ce que quand vous croisez une femme dans la rue, vous regardez forcément
son
sac?
Ne m'en parlez pas, ne m'en parlez pas. Pendant le livre, ça a été, hein, c'était vraiment une complicité avec les témoins, et c'était vraiment très très intéressant, mais surtout avec les télés qui m'ont fait vider les sacs un petit peu partout. Alors maintenant, ça devient une... Je ne peux plus me décrocher le regard des sacs, je ne vois que des sacs partout, quoi, hein, et j'essaie de faire les hypothèses, d'imaginer, c'est un peu une horreur. J'ai hâte de passer au prochain livre pour me décrocher, parce que ça peut devenir une obsession, quoi.
Et d'ailleurs, ce sera quoi, votre prochain livre?
Alors, j'ai un peu de mal à en parler, parce que je vais peut-être changer un petit peu de catégorie. Ça sera peut-être un roman.
Ah.
Mais, voilà.
Bon. Est-ce que vous... Une dernière question. Connaissez-vous la tendance des sacs été 2011?
Alors, non, alors là, je ne suis pas... alors, quoique je commence à être... Parce que quand j'ai fait le livre, ce n'était pas la thématique du livre. Hein, c'était de voir comment le sac fonctionne dans son lien à la personne complètement. Mais depuis que le livre est sorti, alors on m'a demandé de décrypter... Je pense à cette interview avec Gala, par exemple, on m'a présenté des stacks de stars et j'avais pas le contenu, hein, juste l'extérieur et en devant interpréter ce que ça signifiait, etc. Donc là, c'est pas vraiment ma spécialité, mais je commence du coup à me former. Au début, je mélangeais certaines stars, maintenant, ça y est, je commence à être absolument incollable. Hein, y a pas de problème. Sur les tendances de l'été, non. Alors là, je suis désolé, j'ai peur de dire des bêtises. Donc,
Je vais vous le dire.
Ah ce oui, sera... bah allez-y.
Donc, on va être plutôt dans les teintes naturelles, beige, marron, et c'est les besaces, cabas, tout ça qui vont revenir la mode.
Voilà. Ouais, alors besace cabas.
Voilà.
Ouais, besace cabas.
Avec des franges. Tout décoré de franges.
Oui, ah oui, ça j'ai vu ça. Hein, j'ai vu ça, les franges. Donc ça, c'est l'aspect. Alors, le mot tendance d'ailleurs est un petit problème,
oui,
parce que le mot tendance, ça signifie mode.
Oui.
Et alors que tendance, notamment dans les sciences, pas seulement dans les sciences sociales, c'est au contraire une évolution de long terme, une tendance de long terme. Donc c'est un mot qui a été retourné. Il y en a beaucoup comme ça. Mais justement, on peut jouer sur les mots. Les cabas, c'est une tendance qui s'inscrit dans une tendance.
Oui. Hein,
c'est une mode qui s'inscrit dans une tendance longue parce que, justement, les sacs ne continuent sans cesse à grossir toujours davantage.
Tout à fait. Ah. Eh bien, merci.